Dans cet épisode, Manika Heller, membre du CREFO, rencontre Luisa Martín Rojo, professeure à l'Universidad Autónoma de Madrid.
Je pense qu'on doit récupérer cette idée de la langue et de la communication comme un partage, une action de partager et pas comme un capital.
Bienvenue à Quoi de neuf?
J'ai le plaisir aujourd'hui de parler avec Luisa Martín Rojo. Elle est catedrática, c'est-à-dire plus ou moins professeure titulaire de sociolinguistique au département de Lingüística General à l'Universidad Autónoma de Madrid. Elle s'intéresse au discours comme espace de lutte sociale pour l'équité et elle a mené du travail de terrain dans plusieurs espaces clés, de la prison à l'école, au terrain du mouvement Occupy et jusqu'aux communautés zapatistes, surtout en Espagne, mais aussi au Mexique, aux États-Unis et en Angleterre. Elle est la fondatrice et a été la première présidente du groupe EDISO, Association de Estudios sobre Discurso y Sociedad. C'est une association intellectuelle qui se gère comme communauté ou collectivité et qui crée des espaces, des colloques, des blogs, des sites d'échange pour une discussion plurilingue, surtout en espagnol, portugais, galicien et catalan, au sujet des aspects langagiers et discursifs de la justice sociale. Elle organise un nouveau centre interdisciplinaire de recherche, le MIRCO, qui se penche sur des questions de multilinguisme, de discours, de communication et d'identité sociale. Elle est responsable ou co-responsable, entre autres, des livres suivants. Voces de la Ola, Etnografías de la Escuela Multilingüe, Constructing Inequality in Multilingual Classrooms, A Sociolinguistics of Diaspora, Latino Practices, Identities and Ideologies, Occupy, The Spatial Dynamics of Discourse in Global Protest Movements, et tout récemment, l'ouvrage collectif, Language and Neoliberal Governmentality. Et surtout, le CREFO a eu l'honneur de l'accueillir deux fois comme professeur invité, en 2003 et en 2009. Alors, Luisa, aujourd'hui, j'aimerais surtout discuter avec toi de certaines idées clés qui sont ressorties de tes activités, comme fil rouge dans ta pensée, dans ton travail. Commençons avec l'idée de capitalisation et décapitalisation, ressortie, si je me souviens bien, des recherches de ton groupe dans 6 écoles de la région de Madrid, qui accueillaient, si c'est le mot pour le dire, des élèves issus de l'immigration. Pourrais-tu nous raconter ce que votre équipe a observé? Et comment ça a donné lieu à cette idée?
Bon, d'abord, bon après-midi et merci pour avoir. C'est parce que je trouve que cette sorte de conversations sont très subtiles et surtout pour donner des cohérences à notre travail. Et c'était surtout quand on a fait cette étude dans les écoles multilingues, mais aussi quand on a fait une comparaison entre les programmes de bienvenue et les programmes d'anglais, qu'on a beaucoup de programmes maintenant dans plusieurs écoles à Madrid et aussi secondary school, primary and secondary, primaire et secondaire, et qu'on a des écoles que là, il y a un programme de language and integrated learning in English and Spanish, espagnol-anglais.
C'est ce qu'on appelle le CLIL, c'est ça?
C'est le CLIL. Et ils font au moins 3 ou 4 sujets en anglais. Et toujours les mathématiques et la langue, ils les font en espagnol. Une chose comme ça, non? Mais il y a beaucoup d'écoles, ça peut être 500 écoles comme ça. Donc, quand on a vu que dans cette école, ils utilisaient les CLIL, mais qu'à les écoles pour des bienvenus où les étudiants apprenaient l'espagnol avec des méthodologies anciennes, et aussi sans matériel, parce qu'il n'y a pas de matériel pour l'enseignement de la langue espagnole académique, pour l'école, pour les immigrés, c'est ça que j'ai que j'ai commencé à penser qu'il y avait un problème de distribution des ressources linguistiques. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas les meilleures procédures ou la méthode si on l'applique dans un cas et pas dans l'autre. Et dans un cas, les professeurs, c'était bilingue. Et dans le cas de les langues espagnoles, les professeurs, c'était pas spécialiste dans l'apprentissage des langues. Donc, j'ai pensé, il y a quelque chose qui va pas ici. Et donc, on a commencé à étudier ce qui s'est passé à la salle de classe. Et à la salle de classe, on a vu aussi cette différence, un management des ressources linguistiques. Parce que dans les cours par exemple, en biologie, ils utilisaient l'espagnol comme un point de référence. Si quelqu'un savait pas dire en anglais, un terme très scientifique, comme pour la matière ou une chose comme ça, il pouvait utiliser l'espagnol, ça va. Mais dans les cours de langue espagnole pour les immigrés, il y avait une norme, une règle qui était seulement en espagnol. Donc, il y avait par exemple une fille chinoise qui, après 2 ou 3 semaines, elle a compris qu'on parlait de la loi de la gravité. Gravité,
oui.
Mais il savait pas parce qu'il n'avait pas aucun point pour accrocher ce qui s'y passait à la classe. Mm-hmm. Donc, il pouvait pas utiliser une machine pour la traduire et choses comme ça. Non? Donc j'ai dit bon, il y a un management inégal des ressources et aussi quand les étudiants étrangers ils voulaient. Par exemple, il y avait 3 filles qui c'était 3 sœurs, non? qui parlaient différentes langues arabes, les standards, les darija, une langue berbère, un peu de français, l'espagnol. Elle aimait faire des jeux de mots avec tout ça, mm-hmm. Et elle proposait surtout la plus âgée. Il proposait des ça à la professeure pour faire des petits, et comme c'était comme un exercice de langue, c'était très bien pour apprendre. Mais la professeure disait non en espagnol. Donc, c'est là que je dis ici, il y a pas seulement un management inégal des ressources, qu'il y a des ressources qui sont valables et d'autres qui ne sont pas valables. Mais aussi, il y a une dynamique de distribution qui capitalise à les étudiants qui apprennent l'anglais et l'espagnol et décapitalise les enfants et les étudiants qui essayent d'apprendre l'espagnol.
Donc, quand tu dis, par exemple, capitalisation, ce que tu veux dire, c'est que, par exemple, les élèves de la majorité, si on peut le dire, on reconnaît leur capital en espagnol, c'est légitime, et peuvent l'utiliser pour acquérir encore d'autres capitales linguistiques importantes, c'est-à-dire l'anglais, tandis que les élèves issus d'immigration, ils arrivent avec toutes sortes de capitales, berbères, différentes formes d'arabe, mais ça, c'est dévalorisé, c'est évacué de l'école, ils sont décapitalisés, et ça empêche leur accès à la ressource linguistique de l'espagnol pour ne pas parler même de l'anglais, c'est ça?
Ça fait plus difficile d'acquérir d'autres capitales. Et j'ai vu que je pense que ça c'est un peu différent si on compare avec d'autres travails à l'école, que j'ai vu la change des étudiants. Des étudiants qui s'opposaient à cette règle de seulement en espagnol. Et il disait, est-ce qu'il ne peut pas venir à un ami que j'ai, qui est bilingue en arabe, et m'expliquer des concepts de la physique en arabe, et comme ça, je pourrais apprendre en espagnol. Donc, il s'opposait à la règle ou bien il essayait de faire sa langue aussi en capitale ou bien il essayait d'apprendre l'espagnol, mais avec l'aide de sa langue ou bien de l'anglais aussi. Par exemple, les étudiants chinois, ils utilisaient l'anglais comme une façon de traduire l'espagnol.
Donc, les élèves avaient des stratégies pour contourner la règle, pour contourner la situation dans laquelle il et elle se trouvaient. Mais ça donnait quoi, ces stratégies-là?
Au moins, on voit que tout ce processus n'est pas statique, est très dynamique, est dynamique et situationnel. Et c'est pas une distribution abstraite. Non, c'est vraiment dans la pratique, dans l'interaction, que ça, il y a ces dynamiques, il y a des capitalisations, décapitalisations, et les gens ont cet échange. Donc, je trouve que ça, c'est très important.
Cette capacité d'action. Et quand ton équipe, vous avez parlé de vos résultats, vous avez publié des livres, comment ça a été reçu?
Il y a différents niveaux. On a capturé l'intérêt de la mairie de Madrid, un peu de la mairie de quelques villes qui s'étaient proches à la ville, mais pas par exemple comme dans la région. On a la région est indépendante en relation avec l'éducation. Et parce que l'État espagnol n'entrait pas dans la régulation de l'éducation dans les régions, pas tout à fait, non? Donc, à la région, on n'a pas eu aucune répercussion. Ils sont même pas reçus, parce qu'on a essayé d'avoir des réunions et ils sont refusés. Mais dans les écoles, c'était différent. C'était différent.
Et parfois, c'était comment?
Différent. Parfois, ça a été très intéressant parce qu'on a développé des liens, on a fait des workshops, des choses comme ça, et ça marchait. Mais c'est pas simple parce que parfois, ils disaient que notre façon de voir les choses, c'était trop critique.
Et est-ce qu'il y a eu des échos avec, par exemple, je ne sais pas, les associations des immigrés?
On a fait quelques cours de sensibilisation, mais après tout ça, et la crise de 2008-2009 est arrivée et tous les programmes qu'on avait pour les immigrés ont disparu. Et aussi, il y a eu 3-4 ans que les immigrés qui sont arrivés en Espagne, les numéros ont descendu. Donc, dans ces moments, ça a été un peu, et on a laissé ça tomber, si tu veux.
Et donc, pour passer à d'autres choses, c'est justement, j'ai l'impression que en tant que chercheur, en tant qu'enseignante universitaire, tu me raconteras un petit peu la suite, mais tu as eu un intérêt marqué pour la question de l'engagement, justement, autant dans les sujets de tes recherches, mais aussi dans ta propre pratique de chercheur et d'enseignante. Donc, tu t'es intéressée, par exemple, au mouvement Occupy, au mouvement Zapatista aussi, tu es allée comme enseignante. Ces pratiques, par exemple, dans l'espace de Ediso que tu as fondé. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce lien-là? Tu dis que vous avez laissé tomber un petit peu du côté des écoles, mais pour embarquer ailleurs, non?
Parce que c'était, on a vu dans cette recherche à l'école, on a vu deux choses que je trouve que ce sont très importantes. L'un, cette idée de la, de le sujet qui a une capacité d'action, de transformation. Et l'autre, c'était que on nous sommes demandé qu'est-ce qui se passe avec les, quand les gens internalisent cette idée négative de qu'ils parlent mal, qu'ils parlent pas bien. Donc après ça, avec, on essaye depuis ça de développer et comprendre mieux ces deux questions. Donc la question des sujets et de comment cette internalisation peut pousser les gens vers les consent,
l'accord, oui.
L'accord et l'adaptation, l'accord, tout ça. On a pensé qu'on pouvait travailler à ces points pour voir si on pouvait explorer d'autres façons de réagir. Peut-être la résistance, pas les consent. Donc, moi, là, j'ai commencé à travailler avec mes étudiants à l'université. Et c'est là qu'on a trouvé la question de le néolibéralisme et comment le néolibéralisme a changé la perception qu'ils avaient de, et même la relation qu'ils avaient avec les langues.
Mm-hmm.
Donc, là.
Ben, c'est-à-dire, pourrais-tu peut-être juste expliquer, donc, ces relations en dedans de l'université néolibérale, tu le décrirais comment?
Parce que, on a fait dans toutes les années, on fait ça, on partage des petites anecdotes qui parlent des situations linguistiques ou bien où ils se sont trouvés discriminés ou pas confortables ou maltraités. Et avec ça, j'ai commencé à trouver qu'il y avait un numéro assez grand des étudiants qui parlaient de langue comme capitale et qu'ils voulaient, et qu'ils avaient une idée très compétitive de la, et sa relation avec les langues, c'était presque économique, mais peu plus qu'économique, parce que c'était pas seulement l'idée de on va apprendre parce que je vais avoir mon curriculum ou une chose comme ça. C'était surtout une idée de je peux me transformer pour être plus entrepreneur, pour être plus compétitif. Donc, l'idée avec les langues, plus que d'un instrument de communication, la langue qu'on voit plutôt comme une ressource pour le succès.
Et ça, c'était nouveau dans ton expérience?
Peut-être pas tout à fait nouveau. Non, je ne crois pas que c'est nouveau, mais c'est plus intégré dans une vision de la vie, de la carrière, même de le corps et de la santé, qui c'était plus général dans sa vision un peu néolibérale de qu'on pouvait nous transformer pour être plus compétitive.
Et le corps et la santé dans ça?
Et c'est également, on fait des exercices pour être plus rentable. On apprend des langues pour être plus rentable, est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, tout à fait, oui.
Donc, même c'est comme les self-help literature, une chose comme ça, on peut se transformer, on peut être même gay, pour avoir un succès. Tu sais.
Donc, c'est notre responsabilité de prendre notre vie en main et d'aller de l'avant pour faire ce qu'il faut pour avoir une valeur dans la société.
Et surtout dans les marchés. C'est ça. J'appelais ça les self-made speakers.
D'accord.
Parce que j'ai trouvé que les gens apprennent toutes seules des langues. Et avec les vidéos, avec Netflix, avec la musique, avec tout ça.
Et donc, pourquoi venir à l'université pour apprendre les langues?
Non, il vient pas pour ça. Et bon, il y a des gens qui viennent pour ça, mais pas pour apprendre une langue, mais pour apprendre deux, trois ou quatre. Mais aussi, surtout, c'était des étudiants qui étudient son degree, qui font ses études en anglais. Par exemple, les relations internationales.
OK, donc ils sont dans des programmes d'études, OK, où la langue d'enseignement, c'est l'anglais. Et donc, pour le reste, si je me dis, bon, c'est important d'apprendre le mandarin, ça, je m'en occupe, je fais ça en dehors de l'université.
Parfois, oui, et même son anglais, c'est toujours en construction. C'est ça qu'il parle, je dois améliorer, je dois passer l'examen. C'est toutes les idées du néolibéralisme, d'avoir une certification, de faire des examens, d'avoir l'accréditation.
Oui, d'avoir les diplômes, la preuve, quoi.
La preuve.
Et donc, c'est quoi le lien dans ton travail, dans ta pensée entre ça et ton intérêt, par exemple, pour le mouvement Occupy ou les efforts énormes que tu as investis pour créer des espaces qui sont justement pas compétitifs du tout, mais qui sont collaboratifs, qui sont collectifs?
C'est là que je vis que c'était très assez intéressant de recruter les étudiants pour la recherche, pour les montrer aussi comment ils pouvaient utiliser la recherche pour comprendre mieux la société et même. Et là, les mouvements Occupy, ça a été pour moi une surprise. Parce qu'on avait commencé à faire un linguistic landscape de Madrid pour comprendre la distribution des langues dans la ville. Et là, un jour, les Occupy Mouvement étaient dans la place et on l'a trouvé, et moi et les étudiants, on faisait tous ensemble cette linguistic landscape. Donc, on est passé à la place, on était là. Et moi, je dis ici, il y a quelque chose que j'avais vu jamais, que c'était comme la langue pouvait transformer l'espace et faire une place qui était un lieu de rencontre, mais aussi politique, parce que le gouvernement de la ville est là, aussi Apple avait là son grand magasin. Et bon, c'était un endroit où les gens viennent et passent et tout ça. Et un jour, ça devient un espace politique. Et même une utopie. Parce que là, avec les affiches, avec tout ça, ils avaient compartimenté la place en différents espaces, pour une bibliothèque, pour un espace de discussion, pour
les assemblées,
les groupes de travail. Et dans tout ça, même il y avait un espace pour les enfants, ils n'avaient pas d'argent du tout, il y avait un endroit pour manger, mais pas d'argent, les gens venaient avec d'elle. Et donc j'ai compris que c'était les affiches qui transformait l'espace, même les noms. C'est comme à Paris, moi j'étais à la Nuit debout. Après ça, j'essaye d'étudier tous les Occupy. Et à la Nuit debout, la place de la République avait devenu la place des communes, de la commune.
Mm-hmm. De la commune, ouais.
Donc, c'est une sorte de resémiotisation qui transforme l'espace en un espace de rébellion, ou au moins un espace qui nous montre une autre réalité possible.
Mm-hmm.
Et là, c'est les étudiants qui étaient avec moi, on a fait tout ça ensemble. Et après ça, on a fait beaucoup de linguistic landscape avec beaucoup de gens, plus de 300 ou 400 avec les observatorios de DISO. Et on a vu que c'était quand les gens des biens cherchèrent Ils sont les qui font la recherche, l'enquête. Ils apprennent beaucoup et en plus on voit les choses autrement.
Autrement.
Oui. Parce que son expertise est intégrée à la recherche. Et la façon de voir la langue est intégrée à la recherche. Donc, je crois que là, on a ouvert un espace sociolinguistique un peu nouveau.
Mm-hmm. Et quand tu essaies, par exemple, de construire ce genre d'espace autrement, je vais pas dire utopique parce que je pense pas qu'on soit là, mais très concrètement, par exemple avec Edison ou avec Mirko, avec ton groupe de recherche, qu'est-ce que tu dirais, mettons que tu disais, écoute, je veux faire comme toi, comment je fais, quels sont les qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile, quels sont les obstacles, qu'est-ce que tu me raconterais? Bon.
Et je crois que il y a une idée à la base que c'est important, que c'est l'idée que on habite dans un monde où tout devient commodifié, comme tu as étudié. Donc, comment on peut s'opposer à la commodification de tout? Et une idée qui c'était de Polanyi a dit ça, c'était et de plus qu'il y a une commodification, la réaction peut être mettre les choses en commun. Donc, moi, je pense que dans l'espace académique, on a cette pression de faire des rankings, des publications avec l'index de l'impact. Et toujours avec cette, on n'a pas de temps, même pour lire, non? Il faut écrire, mais on ne peut pas lire. C'est complètement stupide. Et donc, si on met tout ça en commun, les ressources qu'on a, on gagne tous. Et à Edison, je vis ça très clairement. À Edison, il y avait des gens qui étaient complètement isolés dans la géographie d'Espagne, Portugal et même l'Amérique latine, parce qu'ils travaillaient en sociolinguistique ou critical discourse analysis, et ils étaient complètement seuls dans ces universités. Et maintenant, ils sont en réseau pour demander qu'est-ce qu'il faut lire pour ça, ou qu'est-ce que, et même pour la, il y a eu beaucoup assez nombreux de groupes de recherche qui ont des on a l'origine à Edison et aussi une façon de que les gènes peuvent faire sont présentés dans son espace de sécurité, de coopération. Donc je trouve que ça a été une très bonne expérience, même difficile.
Donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, que ce qui est en commun, les communes, c'est quelque chose qui s'écrit finalement par le biais de l'interaction et que c'est en fait fondamentalement sociolinguistique, la création des espaces discursifs autrement, quoi.
Mais aussi, il faut changer la logique, non? Parce que si tu penses que, bon, peut-être tu gagnes avec ça, mais c'est plutôt l'idée de la coopération et de faire de devenir une collectivité qui est, sincèrement, il est plus forte, plus fort. Et personne est isolé et il y a toujours quelqu'un qui peut contribuer. Mais ça, dans l'autre côté, il faut avoir une logique de coopération.
Mm-hmm. Et des moyens de gestion de conflits?
Aussi. Parce que, par exemple, la langue, ça a été une question difficile. Parce que comment trouver une façon de faire ça sans évoquer l'inégalité linguistique? Les langues plus colonnes, de la colonie ou de la métropole ou les langues qui ont de dominatrice. Donc, comment faire un espace de qualité linguistique. On a essayé ça avec le multilinguisme, mais aussi il faut apprendre à comprendre d'autres langues pour avoir un dialogue polyglotte. Donc, oui, on a eu des questions comme ça. Et aussi, c'est pas facile d'écrire, par exemple, un texte, et ne pas mettre ton nom.
Oui, d'accord. Oui, oui. Oui. Et les gens acceptent ça ou pas forcément?
Oui, ça marche, mais il faut un certain degré de réflexivité. Et pas tout le monde a le même degré de réflexivité.
Et il y a des conséquences aussi très différentes pour quelqu'un comme toi ou comme moi, où on a des postes et des jeunes qui doivent s'établir dans leur carrière.
C'est pour ça, Ediso, quand on a fait toujours on avait l'idée de que pour toutes les activités, il fallait mélanger des seniors et juniors. Parce que comme ça, les juniors avaient aussi un backup, non? Quelqu'un qui... Et aussi une aide pour mettre en circulation tout ce qu'il faisait. Parce que le problème ici, c'est toujours qu'on travaille, mais on ne peut pas mettre en circulation ce qu'on fait. Parce qu'il n'y a pas un dialogue équitatif, non? Une participation équitative. Surtout si on travaille en Espagne ou un peu dans la périphérie.
Donc, écoute, merci infiniment. Je pense que pour moi, tu es vraiment une inspiration de comment on fait pour avoir une cohérence entre sa vie de chercheur, d'enseignante et juste citoyenne, quoi, d'une société qui sait comment ouvrir les espaces, pas juste subir les contraintes qu'on nous impose en ce moment historique. C'est un point de vue super. Super important. J'invite ceux et celles qui écoutent, qui sont francophones, à visiter Ediso et faire l'effort justement d'une compréhension des langues qui sont quand même des langues romanes et qui sont pas si difficiles à lire pour quelqu'un qui parle français. Et donc de découvrir justement ce monde intellectuel terriblement créatif avec des idées vraiment intéressantes, des débats vraiment intéressants. C'est un des rares en fait dans mon expérience où je pense que les gens font vraiment le pari de la collaboration. C'est important à voir, c'est important je pense pour tout le monde de voir et d'essayer de notre côté de créer ce genre d'espace. Louise, est-ce qu'il y a d'autres, des derniers mots que tu aimerais rajouter avant qu'on termine?
Je pense qu'on doit penser un peu à ce que c'est la langue et la communication comme un instrument, non pas un instrument, mais comme une communion, une façon d'être en contact, plus surtout maintenant, dans ce moment si difficile. Et je pense qu'on doit récupérer cette idée de la langue et de la communication comme un partage, une action de partager et pas comme un capital, toujours.
Merci beaucoup. Ben, je trouve que justement, cette idée de partage, c'est le mot-clé pour notre conversation et j'invite tout le monde à continuer à partager. J'espère que justement, ce que tu as à nous dire... sera largement partagé et permettra la construction des espaces alternatifs par plusieurs. Merci beaucoup, Louisa.
Merci à vous.
Vous avez aimé cet épisode? Faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par courriel à crefo.oise@utoronto.ca.